BW. Vue d'Allemagne.
Des manifestations géantes de tracteurs dans les villes. En Allemagne, les agriculteurs protestent contre une réforme du gouvernement qui vise à protéger la biodiversité. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, on va tenter de comprendre le point de vue de ceux qui produisent la nourriture qui atterrit dans nos assiettes. Dans la deuxième partie de ce magazine, retour sur le Black History Month qui s'achève en Angleterre, un mois qui vise à briser les stéréotypes sur les Noirs. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen and welcome. Une file interminable de tracteurs défile dans les rues de Bonn ce 22 octobre, bloquant les principaux axes de l'ancienne capitale fédérale. Des engins qu'on rencontre habituellement sur les routes de campagne et non en centre-ville. Mais aujourd'hui, ils sont venus en masse manifester leur mécontentement à Bonn, où se trouve le ministère de l'Agriculture, mais aussi dans d'autres villes comme Munich, Hanovre ou Berlin. Avec des slogans comme « Farmers for Future » ou encore « Qui nourrira l'Allemagne quand nous en aurons assez ?», les agriculteurs allemands protestent contre la réforme agraire proposée par la ministre Julia Klöckner. Une réforme à travers laquelle l'Allemagne veut honorer ses engagements écologiques. Le gouvernement a ainsi validé en septembre l'interdiction de l'herbicide glyphosate d'ici la fin 2023. L'objectif est de protéger les insectes dont les études indiquent que le nombre a considérablement diminué au cours des dernières décennies. La réforme prévoit aussi la mise en place d'un label « bien-être animal ». D'autres restrictions sur le lisier et les engrais visent à limiter les fuites de nitrates vers les nappes phréatiques. La Commission européenne a en effet menacé l'Allemagne de poursuites judiciaires, y compris d'amendes massives, pour ne pas avoir traité le problème de manière adéquate. Mais la réforme suscite l'incompréhension des agriculteurs comme Bernard Kalis. Il est producteur de fruits et légumes à la frontière polonaise, dans une région qui compte d'immenses exploitations pratiquant une agriculture intensive.
Nous sommes ici à cause du projet de réforme prévu par la ministre de l'Agriculture et le gouvernement, parce que nous le rejetons, ce que ce plan prévoit pour protéger les insectes, par exemple. On n'aura plus le droit d'utiliser des herbicides ni des insecticides au nom de la protection de la biodiversité. Pour nous, cela veut dire qu'on ne pourra plus cultiver notre terre.
Tom Hallstein, un autre fermier âgé seulement de 19 ans, pose à côté d'une potence à laquelle est pendu un épouvantail affublé d'une combinaison de paysans. Le message est sans équivoque, les agriculteurs craignent de voir disparaître leur raison de vivre.
Nous sommes venus à Berlin pour montrer que nous aussi on peut agir, et pas seulement les autres. Là-haut, dans la politique, ils ne connaissent rien de ce qui se passe dans nos fermes et ils veulent nous imposer leurs réformes. Nous voulons être consultés, nous voulons donner notre opinion et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Avec son mari et son fils, Renate Berg a, elle, parcouru 55 km en tracteur pour rejoindre la manifestation de Bonn. Pendant des années, son mari était producteur laitier et propriétaire d'une centaine de vaches. Il a tourné la page et gagne maintenant sa vie en élevant de jeunes animaux.
Nous avons supprimé les vaches il y a 2 ans parce que ça ne valait simplement plus la peine. Parce qu'on s'est dit que traire les vaches, ce n'est pas intéressant si les coûts ne sont plus couverts. Alors on a dû changer d'orientation.
Le nombre d'exploitations agricoles a diminué de plus de 16% entre 2007 et 2017 en Allemagne. Le pays en compte aujourd'hui moins de 270 000 selon l'Association des agriculteurs allemands. C'est une tendance générale en Europe occidentale. Renate Berg le confirme. Dans sa région de Zülpich, dans l'ouest de l'Allemagne, une ferme sur 4 seulement compte encore des vaches laitières. La faute à la concurrence issue de pays où les normes et les coûts de production sont moins élevés.
Le lait qui vient de Nouvelle-Zélande est produit tout à fait différemment. Ils ont les moyens de produire à moindre coût. Ils n'ont pas besoin d'étables chères comme les nôtres. Ils ont des unités mobiles et peuvent produire du lait pour 3 fois rien. Et ensuite, il est apporté en Europe, en Allemagne, et on ne peut pas faire face. Mais les supermarchés achètent évidemment le lait le moins cher.
L'Union européenne négocie actuellement un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est l'un des plus grands producteurs de lait au monde. Les producteurs allemands y voient donc une menace directe pour l'avenir de leur filière. Mais les agriculteurs critiquent aussi la pression des distributeurs, et particulièrement des discounters, qui les forcent à vendre leurs produits au rabais. Anna Müller, reine de la pomme de terre, et ce n'est pas une blague, de la région Rhénanie.
On remarque que les commerçants en alimentation se livrent à une guerre des prix. Ce sont les agriculteurs qui souffrent le plus de cette guerre parce que c'est nous qui touchons le moins dans cette chaîne de création de valeur.
La jeune femme de 21 ans, originaire de Titz, à 80 km de Bonn, a l'intention de reprendre la ferme familiale avec sa sœur jumelle. Et pourtant, elle aussi fait partie des clients de supermarchés discount. Alors comment explique-t-elle ce paradoxe ?
Tout simplement parce que c'est confortable. Les gens ne réfléchissent pas. Ils vont dans un magasin et achètent sans trop réfléchir. C'est ce qu'on fait tous, mais le roi dans l'histoire, c'est le discounter.
Du côté du gouvernement, la stratégie est inscrite dans le contrat de coalition. L'objectif est de développer l'agriculture biologique pour consacrer d'ici à 2030 20% de la surface agricole à ce mode de culture. Plus de 10% des exploitations sont déjà passées au bio. Les représentants de cette branche n'étaient pas présents aux manifestations de tracteurs le 22 octobre.
Pflanzen brauchen Dünger und im Boot ist Energie. Gibt man ihnen Gülle, wachsen sie wie noch nie.
Vous écoutez toujours Vue d'Allemagne et on part maintenant pour l'Angleterre qui a célébré tout le mois d'octobre le Black History Month. Comme aux États-Unis, il propose depuis 1987 toute une série d'événements, de performances et de rencontres pour mettre en lumière l'histoire des Africains et des Caribéens dans le pays. Une histoire qui remonte à bien avant le Moyen-Âge et qui reste souvent méconnue. Mélissa Chemam a suivi quelques-uns de ces événements en Angleterre. Écoutez son reportage.
So we will share some of the stories of our speakers.
Bristol, l'ouest de l'Angleterre, un vendredi soir dans un haut lieu de réflexion sur les nouvelles technologies. Un groupe de chercheurs et quelques dizaines d'étudiants en sciences et ingénierie sont réunis. Ils sont presque tous issus de pays africains ou des Antilles. Ils sont venus non pour écouter de la musique ou regarder un match de foot, tradition anglaise du début du week-end, mais pour parler de carrière dans le monde scientifique. L'événement fait partie du Black History Month. Selon l'un des intervenants, rappeler l'histoire ne suffit pas, il faut briser les stéréotypes sur les Noirs, notamment le fait qu'ils ne pourraient réussir que dans le sport, le divertissement ou le crime. Le docteur Emmanuel Adoukou, biologiste et activiste, est le principal organisateur de l'événement de ce soir. Il aide ses étudiants à développer leur potentiel malgré leur isolation.
On a besoin de plus de personnes dans les médias, dans les sciences et technologies pour qu'ils voient des gens comme eux, vous voyez. Ce qui est important, c'est la représentation et les médias jouent un grand rôle. Quand on montre aux gens qu'ils ne sont visibles que dans certains domaines, comme le sport et le show business, ils commencent à le croire. On leur montre leur place et ça devient leur réalité. Ce qu'il faut faire, c'est démonter cette réalité et leur en montrer une autre, différente.
Comme les autres intervenants, le docteur Adoukou, lui-même d'origine nigériane, pense que les sciences peuvent jouer un grand rôle dans la vie de ces jeunes Afro-Caribéens.
La science n'est pas seulement un concept occidental. La façon dont on l'apprend fait appel à l'histoire. Comment les Égyptiens ont construit les pyramides, par exemple. Voilà un exemple d'ingénierie à son apogée. L'inventeur des feux de signalisation, par exemple, était un noir. Et il existe une conférence aux États-Unis où je vais tous les ans. Et cette année, j'emmène deux étudiantes, la conférence américaine de biologie médicale pour les étudiants issus des minorités.
Dans la bonne humeur, les intervenants encouragent les étudiants à aller toujours plus loin et à croire en leur talent. Il reste encore une heure pour répondre aux questions. D'autres discussions du même genre ont eu lieu dans d'autres universités, dans d'autres disciplines et dans plusieurs villes britanniques. Les principaux événements ont célébré les succès au théâtre, en musique et en poésie, comme lors de cette sortie de livre du poète Lawrence Hu.
J'aimerais vous raconter une histoire, racontant comment notre voyage a commencé. L'histoire de nombreuses personnes ici invitées, puis abandonnées. Venez nous aider, s'il vous plaît. Tous sont les bienvenus. Job à foison, du moment que vous êtes prêt à rejoindre les classes pauvres cachées au fond.
Julio Mcock, étudiant en droit venu du Kenya, est un des organisateurs. Il résume ainsi les activités.
Cette année, nous avons essayé d'avoir de tout, de la culture, de la cuisine africaine, de la mode, de la poésie, de l'éducation, des rencontres universitaires. Par exemple, nous avons reçu l'historien David Olushoga pour parler de la génération Windrush venue des Caraïbes, une lecture de poèmes de Vanessa Kishule, du cinéma avec le festival Africa Eye et par exemple Rafiki, un film tourné au Kenya, une histoire d'amour entre deux jeunes filles, mais aussi deux grands événements musicaux. Nous avons d'ailleurs hâte de finir avec un concert.
Parmi les invités également, des personnalités venues d'autres pays, comme le Sénégalais Karfa Diallo qui vit à Bordeaux, en France. Il a créé une association, Mémoire et Partage, et selon lui, toutes les sociétés occidentales ont à apprendre de l'histoire de leur population noire.
Il n'y a pas, je crois, une expérience qui soit meilleure que l'autre. On a par exemple la question de l'esclavage. La France est le seul pays en Europe à avoir déclaré la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Chaque année, la journée du 10 mai est la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage en France. L'Angleterre n'a pas voté une telle loi. Il n'y a pas une date nationale de commémoration où on s'arrête et on pense à ce qui se fait. Donc on pourrait dire que le modèle français est en avance par rapport au modèle anglais. Par contre, dans les réponses qui sont données aux problématiques de racisme et de discrimination, le modèle anglais est en avance, indéniablement, puisque on peut mesurer les discriminations, alors qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites par la loi. Donc on ne sait pas exactement quelle est la mesure de la violence raciale, de la violence, de la discrimination à l'endroit des minorités. En France, on peut dire qu'il y a un traitement symbolique. En Angleterre, on a un traitement juridique et on a aussi toute cette différence entre la façon dont le monde anglo-saxon a géré ses communautés, hein, où elle n'a pas eu comme obsession d'assimiler ces communautés, c'est-à-dire de leur faire renoncer à leur identité, alors qu'en France, à l'inverse, on a la politique d'assimilation qui est, on fait en sorte que les Noirs, les Arabes deviennent des Français, renoncent à leur culture.
Ainsi, puisque la France ne célèbre pas de Black History Month, Karfa Diallo a décidé d'en créer un, il organise une série d'événements à Bordeaux en février pour coïncider avec le Black History Month américain. L'exemple britannique a aussi inspiré plusieurs associations aux Pays-Bas et en Irlande. Mélissa Chemam en Angleterre pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Nancy Issenson pour les sons recueillis à la manifestation des agriculteurs à Bonn. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !